Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
OK, si vous êtes parent, puis vous comprenez rien là, aux algorithmes de gestion de la COVID-19 dans les écoles, je vous invite à lire l'article du Journal de Montréal, signé par Daphné Dionvien, qui est avec nous. Daphné, bonjour.
Bonjour.
C'est, d'abord, commençons avec le commencement, puis là où c'est compliqué, explique-nous c'est quoi là, l'algorithme de gestion pour les cas de COVID ou non, de tests ou non dans les écoles, parce que vraiment, moi comme parent, je m'y retrouve pas.
Bon, ben justement, on va essayer de faire ça simple, c'est qu'on a voulu faire ce matin. Plusieurs parents vont se demander dans les prochains jours, bon, qu'est-ce que je fais avec mon enfant si le matin, en se levant, il a mal de gorge, il a le nez qui coule, voilà. Donc, la première chose à retenir, c'est que les symptômes, règle générale, ça en prend deux avant que l'enfant reste à la maison, sauf pour la fièvre. C'est sûr qu'un enfant qui fait de la fièvre le matin, on le garde à la maison. Sinon, ça prend deux symptômes parmi ceux qu'on connaît. Donc, on parle de mal de gorge, nez qui coule, vomissement, diarrhée, mal de ventre. Là, si l'enfant est mal en point puis il y a deux de ces symptômes-là, on le garde à la maison. Ensuite, si on a des tests rapides, on lui fait passer un test à la maison, mais ça prend deux résultats négatifs à 24 heures d'intervalle avant de le renvoyer à l'école. Donc, ça veut dire qu'il faut le garder au moins une journée à la maison si on fait le test le matin, là, quand on constate qu'il va pas très bien. Et le lendemain, si on peut refaire un test et qu'il est négatif, ben là, on peut le renvoyer à l'école.
Et pendant ce temps, les membres de la famille doivent rester eux aussi à la maison.
Oui, ça, c'est la nouveauté. Et c'était pas comme ça cet automne. Donc, ça, c'est vraiment là où les parents là ont pas nécessairement compris qu'il fallait vraiment le faire. La santé publique explique là que c'est pour essayer de limiter la contagion pour pas que ça passe de l'école à la famille, à la communauté.
Mm-hmm.
Donc, il faut isoler là toute la bulle familiale. Fait que si le petit frère, le matin, ne peut pas aller à l'école là, parce qu'il a mal à la gorge et qu'il tousse, ben la grande sœur non plus. Doit pas aller à l'école et les parents doivent pas aller travailler pendant au moins 24 heures.
Mais ça, là, Daphné, ce que je comprends pas, puis tu devrais être engagé par le ministère de la Santé, là. Tu pourrais clarifier les règles. Mais si le résultat est négatif, là, l'enfant se lève, il morve, bon, les symptômes, je le garde à la maison, il faut que je fasse un deuxième test le 24 heures, tout le monde reste à la maison. Puis s'il est positif, tout le monde reste à la maison, pareil. Ce qui veut dire que tout le monde reste à la maison tout le temps?
Bien, ça, c'est l'enjeu. C'est sûr que ça va arriver, puis ça va arriver souvent. Si le test est positif, ben là, c'est 5 jours minimum pour tout le monde à la maison. Mais ce qu'il faut aussi penser, là, on nous dit que les tests rapides s'en viennent là, dans les prochains jours, là. Mais pour ceux qui en ont pas encore à la maison ou pour ceux du secondaire où il n'y aura pas de distribution dans les écoles secondaires, là, écoutez bien ça, si on n'a pas de test rapide à la maison, que l'enfant a des symptômes, ben en l'absence de test, on considère que l'enfant il est positif. Fait que ça veut dire que là, même s'il n'y a pas de test positif, parce qu'on n'en a pas, on garde l'enfant à la maison 5 jours et on s'isole 5 jours, selon les consignes de la santé publique.
OK. Puis qu'est-ce que les parents te disaient, Daphné, là? Qu'est-ce qui parce que là, tu cites des gens, tu cites la Fédération des comités de parents du Québec, là, tu cites plusieurs personnes, là. C'est comme si c'est le fouillis, mais généralisé.
Oui, c'est vraiment là le son de cloche que j'ai entendu là au cours des derniers jours, un peu partout, à la fois dans les rangs des parents, les fédérations qui les représentent, mais aussi dans les rangs des directions d'école. Hier, on m'a dit, un des porte-parole des directeurs d'école m'a dit, écoutez, pour qu'on comprenne les consignes, puis pour qu'on les explique aux parents, faut d'abord les comprendre. Donc, eux-mêmes ne s'y retrouvaient pas.
Ouais.
Là, ben, c'est eux qui doivent appeler le parent à la maison pour dire, ah, mais là, si votre plus vieux est à la maison parce qu'il y a des symptômes, faut garder aussi le petit frère plus jeune à la maison. Donc, même les directions d'école là, réclamaient vraiment des consignes plus claires, mieux expliquées aux parents et qui ne varient pas non plus d'une région à l'autre. Parce que là, il y a des algorithmes, des diagrammes ou des lettres envoyées aux parents qui varient selon la direction régionale de santé publique. Donc, les outils de communication sont pas les mêmes. Puis comme c'est pas la même chose, ben des fois, il y a des consignes différentes aussi d'une région à l'autre. Ça, le ministère de l'Éducation l'a admis là, hier.
C'est extraordinaire. Daphné, t'as appelé au cabinet du ministre Roberge là, pour essayer de démêler tout ça. Qu'est-ce qu'on t'a répondu?
Oui, tout à fait. Bon, c'est sûr qu'au niveau des consignes de santé publique, hein, c'est pas dans la cour du ministère, mais ça relève vraiment de la santé et de sa direction de santé publique. Mais eux, ils ont admis là, hier en fin de journée qu'il y avait des problèmes de compréhension, que les consignes pouvaient varier là, des fois d'une région à l'autre. Donc, ils ont redemandé au ministère de la Santé de refaire là, des consignes plus claires ou du moins de s'assurer que ça soit clair dans l'ensemble du réseau. Là.
Et là, tu as pris le téléphone et tu as appelé au ministère de la Santé.
Bien sûr. Et au ministère de la Santé, ben on m'a répondu que pourtant les outils de communication du ministère avaient été transmis aux directions de santé publique régionale et au ministère de l'Éducation, mais que là, ça relève de l'autonomie des centres de services et des directions régionales de santé publique de décider on utilise quoi là comme outil de communication. Et les deux outils que le ministère de la Santé m'a transmis hier en soirée,
ouais.
C'était des outils vraiment beaucoup plus résumés, là, mais il manquait quand même des bouts d'information. C'était pas précisé, notamment, que toute la famille doit s'isoler dès qu'un enfant est à l'école. En fait, c'était des outils de communication pas adaptés à l'école. C'était plus ce qu'ils ont envoyé pour la population en général. Je pense que c'est pour ça que les santé publiques régionales ont voulu adapter les consignes à l'école là, pour dire quoi faire concrètement aux parents.
D'où ta référence, Daphné, à la Maison des fous?
Ben, en fait, c'est pas ma référence. Non, mais... C'est que hier, le fameux l'algorithme de gestion de la COVID à l'école a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça venait d'un CIUSSS à Montréal. Et il y a plusieurs parents là qui ont fait référence à la Maison des fous là parce qu'il y a une vingtaine de flèches et de petits carrés là dans ce diagramme là, puis c'est pas simple de s'y retrouver en effet.
Bon ben, j'invite les gens à lire ton guide pratique pour s'y retrouver, c'est dans le Journal de Montréal. Faites juste imprimer ou arracher cette page là du journal, collez-la sur le frigo, tout est là, tout est simple. Daphné Dion vient l'a résumé, l'a expliqué, elle a fait toutes les démarches. Elle a as-tu gardé toute ta raison après cet article-là?
J'espère que oui. Je l'espère, du moins.
Après tous ces appels. Mais lisez ça pour avoir une idée quoi faire et comment faire si vous avez des petits pits à l'école là, puis que vous êtes inquiet pour la COVID. Daphné Dion, viens. C'est vraiment une belle job de vulgarisation, d'explication là, à ce que le ministère de la Santé est capable de faire. Un gros merci, Daphné.
Merci, bonne journée.
Salut.